La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet. Bien le bonjour et bienvenue dans la Midinale de Radio Piquet en direct de Pont-à-Nézen ce 14 novembre 2022. Alors, équipe réduite un peu aujourd'hui à la Midinale, et qui dit équipe réduite se transformera peut-être par l'essai Midinale réduite, mais on va essayer de faire au mieux quand même. Avec moi autour des micros, j'ai Pedro.
Salut.
Régis Asgard.
Salut.
Et Kevin nous rejoindra d'ici un petit quart d'heure avec son agenda qu'il a préparé. Voilà, et Seb à la technique. Donc on va commencer par des petites revues de presse aujourd'hui qu'on a totalement préparées. On a plein de sujets en tête. Il y en avait une qui est un peu plus récente, alors on pourrait peut-être commencer par là. Il y a la loi Darmanin sur la sécurité qui arrive à l'Assemblée, là, la LOPMI. Mais aidez-moi s'il vous plaît, je ne sais jamais ce que veut dire l'OPMI. Moi, mais...
C'est la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur.
Ah ouais, rien que ça, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en titre aujourd'hui, après avoir vu qu'ils allaient refuser 3 milliards de budget pour financer les trains, hein, ça, c'est pas trop important, cette période de COP27. Eh bien, ils ont prévu d'ajouter 15 milliards d'euros sur 5 ans. Pour les flics, voilà, rien que ça, ça fait quand même 5 milliards par an, non 3 pardon, voilà 3, je ne sais même plus compter, 15 milliards d'euros sur 5 ans pour les policiers et les gendarmes. Alors dans le détail, dans l'article que j'ai sous les yeux, j'ai pas le détail de à quoi ça va servir, mais il semble que j'ai entendu ce matin 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. Il y a aussi des brigades mobiles en plus, et en nombre de flics, je crois que ça représente quasiment environ 8000 flics en plus sur le
8500 et répartis à 52% pour la police nationale et 48% pour la gendarmerie. Donc on sent en plus vers un renforcement un peu plus de la police nationale.
La police nationale qui fait des belles choses. On en reparlera dans cette émission un peu plus tard. Voilà, bah c'est super rassurant tout ça.
C'était l'idée, hein, parce que ce projet de loi, si on se rappelle bien, il est directement issu du mouvement et de la réponse au mouvement des Gilets jaunes, ouais. Avec cette histoire de Beauvau de la sécurité, là, enfin, qui... soi-disant, encore une fois, un grand débat sur les questions de sécurité. Et l'annonce qui avait été faite à la sortie de ce Beauvau-là, c'était en effet de mettre énormément de moyens financiers et humains. Et je crois que l'annonce, c'était à doubler le nombre des forces de police, quoi.
Mm-hmm. Voilà, et le chiffre sur les forces mobiles, c'est 11 unités supplémentaires. Alors, je ne sais pas ce que c'est les forces mobiles. Est-ce que c'est la BRAV? Est-ce que c'est... Des trucs comme ça.
Les mobiles, ça doit être, ce qu'ils utilisent maintenant, là, les renforcements là, pour les manifestations, là, les mecs qui peuvent déplacer à travers la France. Là,
ah, et puis qui viennent t'attraper plus facilement. Là.
Avec les véhicules d'intervention blindés, les tenues de cow-boy, grenades de désencerclement.
Je crois qu'il y a beaucoup aussi dans l'armement. Alors sur ces 15 milliards, il n'y a pas que les brigades et tout ça, hein, mais il y a quand même aussi l'accroissement des capacités d'enquête en matière numérique. Alors là, je pense que c'est pas d'accroissement qu'il faut qu'il parle, c'est la mise en place, quoi, parce qu'on est un peu léger, je crois, en France à ce niveau-là, quoi.
Ça, on avait eu l'occasion d'en parler pas mal, hein, puis on renvoie toujours vers la quadrature du net sur ces questions-là, parce que.
Qui a refait un article fin octobre d'ailleurs sur. Voilà, je pense qu'ils vont mettre à jour dans peu de temps, quoi. Mais.
Ouais, et puis on en avait parlé, quoi. Enfin, ils participent à un observatoire des libertés et du numérique qui a fait un article qui est relativement précis là-dessus et qui pointe tout ce qu'il peut y avoir de liberticide sur ces plans-là, quoi. Enfin, donc il y a la mise en place de la reconnaissance faciale, les fichiers, enfin, énormément de choses dont on a déjà parlé. Ça fait partie de ce paquet-là.
Et puis alors, ce qu'on voit, c'est que pour que la LOPMI pour se mettre bien la droite, dans la, enfin la droite, et puis peut-être même la gauche, parce que j'ai vu, attends, que je dise pas de bêtises, il me semble, non, c'est pour la retraite que les socialistes ont voté au Sénat. Bon, ça, c'est encore autre chose. bon, bref, en tout cas, ouais, pour avoir plus de chances que sa loi passe, ils l'ont quand même dépouillé de l'essentiel des dispositions relatives à l'immigration. Bon, il va peut-être pas se mettre le RN dans la poche, mais c'est peut-être pas le but d'aller vers cela, quoi.
Ils feront une autre loi.
Ouais, ouais. Bon, il y aura quand même... qu'est-ce qu'on a dedans la généralisation des amendes forfaitaires délictuelles, hein, qui permettent de sanctionner des délits sans procédure judiciaire, plus besoin de passer par la justice, on s'en fout, on fout des prunes. Voilà, donc ça, ça arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Peu de chance que ce soit contré, quoi.
Ouais, il y a moi j'ai un je suis sur un autre article là, et il y a juste un truc qui m'interpelle parce que je sais pas ce que c'est en fait. Tu vois, il parle aussi d'une agence du numérique des forces de sécurité sera créée. Les forces de sécurité de secours seront augmentées. On va leur mettre des puces dans le cul, ça a changé.
Non, mais c'est peut-être pour les enquêtes en matière de numérique, ça.
Non, on parle des piétons en fait. Tu vois, ce sera avec des équipements innovants comme des caméras piétons. Ah. Donc, alors ça, c'est le truc. Soi-disant, c'était pour amener, tu sais, de la sérénité quand tu te fais interpeller.
Ouais, mais je crois que c'est il y a comment ça s'appelle celle-là, l'amende forfaitaire
délictuelle.
Ouais, un truc comme AFD ou la DAF ou la FAD, ou je sais plus dans quel sens faut mettre les termes. Et j'ai vu qu'ils allaient, par exemple, ils ont rajouté vis-à-vis de cette amende forfaitaire le fait de pouvoir verbaliser en cas de blocage des routes, c'est quand tu t'obstrues la circulation. Mmh. Donc il y a déjà une loi qui existe dans les textes de la sécurité routière qui dit que tu es passible de jusqu'à, je crois que c'est 2 ans de prison et 4 500 € d'amende pour ça. Mais ils ont augmenté, vis-à-vis de cette amende forfaitaire, là, ils ont rajouté ce truc. Donc, où potentiellement, si une caméra, à partir d'une caméra, ils te reconnaissent, ils t'envoient l'amende. Et ça se rajoute à la loi déjà sur la sécurité routière, quoi.
Ouais, l'article de la Quadrature du Net, il est là-dessus, quoi. Enfin, sur, je sais plus comment ils appellent ça, je crois. Il s'oppose au Flixiborg. Et c'est justement sur. Tous ces allègements de procédure qui pointent dans l'article, où on en vient à avoir des amendes automatiques, mais des choses qui se font déjà énormément. Hein. Enfin, on a vu ça pour les Gilets jaunes. Il y a récemment la dissolution du Bloc Lorrain, où ils racontaient qu'ils étaient emmerdés aussi, qu'ils avaient été emmerdés à avoir des amendes parce qu'ils marchaient sur la rue. Lors d'une manifestation qui était déclarée, et que, ça fait partie de l'éventail de la répression politique qui est en place et qui veulent faciliter, systématiser, enfin bref, ça fait partie des nouveaux outils qui mettent en place.
Ouais, là je vois qu'ils ont mis des amendements. Enfin, les sénateurs, là par exemple, ils ont mis un amendement sur le refus d'obtempérer, donc au lieu de prendre une balle dans la tête. Tu prendras 2 à 3 ans de prison et un montant d'amende de 30 000 euros.
Ce qui est quand même mieux que la balle dans la tête, quoi. On va quand même le souligner, mais bon...
Ouais, mais comme en ce moment, c'est le nouveau credo des flics pour justifier la violence sur les refus d'obtempérer, qui se mettent toujours en légitime défense. Bah, comme ils ne se sentaient pas encore assez réprimés, ils ont encore augmenté les peines de prison. Et après, tu vois, je reviens aussi sur le truc que j'avais lu, là, sur les trucs innovants. Je ne comprenais pas ce que c'était. Ce qui parle de caméras embarquées, donc ça, c'est le flicage absolu de tout le monde. Mmh. Et il y a aussi les textiles intelligents. Mais alors là, pas plus de détails. Je ne sais pas ce que c'est un textile intelligent. Donc, ce serait des gilets pare-balles plus pare-balles.
C'est pour les flics, ça.
Ouais, c'est pour les flics.
Équipement pour les flics.
Ouais. Textile intelligent.
Il enregistre ta voix, il met des puces partout dessus.
Il y a des trucs qui font un peu peur. Mais...
Donc l'amende dont on parlait, c'est bien l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle.
C'est ça.
Pour être plus précis. Donc ça permet, hein, c'est un outil numérique qui permet d'industrialiser, automatiser le fonctionnement de la justice pénale. Donc bien évidemment, hein, ça entrave le débat contradictoire, et ça transforme l'autorité judiciaire en simple contrôleur qualité. Voilà. Donc, manifestants, manifestantes, déjà, quand vous irez faire des manifs dans la rue et que vous gênerez la circulation. Faites attention aux caméras, parce que ça risque de vous tomber dessus plus vite que prévu. Une petite amende qui arrivera directement à la maison. Alors l'amende pour obstruction à la circulation va être de... c'est 800 euros. Alors si tu la payes tout de suite en minoré, je crois que ça te coûte 650, mais si tu as oublié de la payer, elle passe à 1600, hein. Donc ça peut quand même en calmer plus d'un, quoi.
Ah, 650 déjà,
déjà 650,
faut ça les sortir, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et puis on en parlera à la fin de l'émission, de l'obstruction à la circulation. Voilà, faut voir à quel point tu peux obstruer la circulation. Dans la loi de sécurité routière, ils disent bien que c'est le fait de positionner un objet ou d'une autre façon, c'est bien de bloquer la circulation pour empêcher les véhicules de passer. C'est pas ralentir la circulation. Tu vois, d'être en mouvement et que ou tu fais un barrage filtrant ou des choses comme ça. Normalement, ça, t'es pas censé être verbalisable sur ce coup-là, quoi. Mais bon, on n'est pas à l'abri, parce que de toute façon, c'est les flics qui décideront, quoi. Et puis une caméra, ils peuvent très bien faire une photo. Sur une photo, la circulation, elle est arrêtée, quoi.
Oui, ben... bah,
c'est pas prouvé que c'était en mouvement, quoi.
Toi, ils feront des gifs.
Ils font des gifs animés, ouais.
Ça sera plus marrant.
Ouais.
Donc il faudra qu'on aille tous manifester avec un masque, c'est ça?
Ouais, c'est okay. Exactement ça. Ouais, mais de toute façon, ça devrait être un réflexe, hein. C'est pour le Covid. Donc,
Ouais. Ah, moi, je pensais plutôt à des masques humoristiques, quoi, genre la tête de Sarkozy, enfin tous les hommes politiques qui sont poursuivis, ce serait marrant.
Ouais. Mais... je sens qu'on va faire une midinale tout à fait convaincante.
On est bien parti.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, vous, sur la LOPMI?
Moi, je voulais juste rajouter, puisque tu parlais des dispositions relatives à l'immigration. Bon, j'ai pas encore bien étudié le projet de loi, mais si c'est pas dans ce même package, les lois sont pas abandonnées pour autant. Hein. Enfin,
oui, ils vont peut-être juste séparer les textes.
C'est juste séparé, mais pareil, elle est dans les tuyaux et elle est particulièrement inquiétante. Il y a pas mal d'organisations qui s'occupent du droit des étrangers, Logisti, la CIMAD, enfin. Un paquet qui déjà critique les dispositions qui sont en place. Hein, enfin, et je ne sais plus où j'en étais.
Ouais, mais je vois de quoi tu parles. Mais cette loi-là de l'immigration, ouais. C'est pas le nouveau package qu'ils ont présenté là, avec Dussopt là, sur loi immigration et travail. Ils ont mélangé les deux.
Mais par contre, ça reste la même orientation. Hein. C'est toujours une loi qui est mise en place et organisée par le ministère de l'Intérieur. Il n'y a aucune réflexion avec ces organisations-là, par exemple. Et c'est une loi qui est téléguidée par le ministère de l'Intérieur, ce qui pose un vrai souci.
Ouais. Bon, en tout cas, on voit ce qui nous attend. Hein. C'est comme je disais en intro, il n'y aura pas 3 milliards pour les trains, mais 15 milliards pour les flics. On voit tout de suite ce que prépare le gouvernement et comment il se prépare aux éventuelles futures contestations. Bah, après, ça fait combien de flics, on a dit 8500? Combien de mégabassines ils ont prévu? Si on multiplie le nombre de flics par nombre de mégabassines, pour éviter qu'il y ait des ZAD, ils seront peut-être tous occupés sur les mégabassines, à savoir. Quoi.
Ouais, ils ont en revoté 27, là, je ne sais plus dans
quel département. Oui, une trentaine, un département voisin de celle de Sainte-Soline. Ouais,
la Vienne, ça, non?
Oui, dans la Vienne, la semaine d'après, ils ont, tiens, un petit point mégabassine au passage, ils ont voté un projet de 30 mégabassines dans ce département-là. Et c'est mardi soir, par contre, du coup, en réaction, il y en a une qui a été détruite. Et apparemment, il y a 150 mètres linéaires de bâches lacérées qui sont inutilisables. Donc, il y a quelques dizaines de milliers d'euros là, de préjudice au chantier. Quoi, mais ça, je pense que c'est pas fini, hein, l'histoire des mégabassines, ça peut aller loin.
Non, et puis ça arrive bientôt ici.
Ouais, ils vont nous en prévoir. Bah, vu qu'on n'a pas de nappe phréatique, ils vont bien nous les foutre à l'air libre.
Mais sur les mégabassines, on peut faire un lien parce qu'il y avait eu un article. Une interview intéressante qui était passée sur Blast sur le sujet. Voilà. Donc j'encourage les gens à aller voir cet article. C'était sur la députée Europe Écologie Les Verts là, qui s'est fait matraquer. Elle est intervenue sur Blast et elle parle un peu en fait de la loi de l'eau et comment elle devrait être gérée en fait. Et normalement, il y a une priorité d'utilisation de l'eau qui est en France, qui est écrite comme ça. Et la première priorité, c'est en fait les besoins pour nourrir les humains, pour faire boire les humains.
Bah, oui.
Et l'agriculture, ça arrive en quatrième position dans la liste des priorités. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un problème d'accaparation de la ressource de l'eau sur ces mégabassines par des agro-industriels, puisque c'est une minorité de gens en plus hein, qui se l'accaparent, et avec la complaisance de l'État, bien sûr, puisque en plus c'est financé par l'État. Donc, donc c'est financé par nous, hein, puisque l'État c'est nous.
Il paraît.
Il paraît.
Voilà. Enfin, c'est notre portefeuille, mais nous, je sais pas quoi.
Mais je crois que tu avais prévu de parler ou d'évoquer vite fait la. Ce qui se passe à Landunvez, là.
Ouais,
le lien, il est tout trouvé. Hein. Il y a,
on peut y aller. Hein.
Il y a ce plan qui a sorti. Alors, j'ai regardé ça vite fait, quoi. Mais c'est exactement sur cet axe-là qui a sorti des dossiers sur la gestion de l'eau et les porcheries, notamment avec l'événement du préfet qui légalise ce qui avait été fait dans l'illégalité.
Ouais, ça, c'est la dernière nouvelle, quoi, qui est tombée dans le coin. Ouais, ça y est, c'est. Le préfet a revalidé, parce qu'il ne sait faire que ça.
Et donc, tout le dossier qu'ils font sur la gestion de l'eau, donc c'est éventuellement par rapport au rejet qu'il peut y avoir avec ces porcheries, les algues vertes, etc. Mais c'est aussi sur la manière dont ces entreprises, notamment l'agro-industrie porcine, ou détruisent les nappes phréatiques et les ont déjà détruites, pour une part, parce qu'il y a des tas de. Il y a des tas de puits de captation qui sont plus propres à la consommation, mais aussi toute la manière dont ils sont en train de rechercher justement pour soutenir ce type d'industrialisation de l'élevage, des nouvelles formes d'eau et avec des appels qui sont déjà en place de la FNSEA à mettre en place des méga-bassines parce qu'ils ont un gros problème de. Avenir de gestion de l'eau. On est toujours le département de France qui est en alerte sécheresse. Les nappes sont au plus bas.
Non, je crois que ça en fait partie des rares qui ont été levés là, en Finistère.
Ah ben, on était le dernier alors. Enfin,
c'était le 22 qui était dans les Côtes d'Armor, ils étaient mal. Ouais.
Mais en tout cas, ils ont un véritable problème pour avoir l'eau et il y a déjà en place ces demandes du coup de la FNSEA de mettre en place des méga-bassines pour pouvoir avoir l'eau nécessaire aux élevages porcins.
Et c'est voilà, pas les seuls industriels qui sont là-dessus en Bretagne. Hein, parce que tu as aussi le mec là, qui veut faire sa méga-usine de brioche là, surgelée. Là. C'est à côté de Rennes. Et qui réclame justement aussi pareil, un apport en eau fantasmagorique. Et donc, il encourage aussi ces histoires de bassines et de retenue d'eau. Ça va, tout ça va avec l'agro-industrie de toute façon.
Oui, puis on avait déjà évoqué au début de la saison là, l'usine de Pont-de-Buis qui fabrique toutes les grenades de désencerclement, etc. C'est Nobel Sport qui a aussi des problèmes et qui a d'alimentation en eau.
Bon, en tout cas, sur cette histoire de la porcherie à Velvor, de Landunvez, donc il y avait un rassemblement hein, dimanche en réaction à la validation de ce projet par le préfet. Il y avait encore du monde, ils étaient plage du Crapaud, ils ont encore récolté un grand nombre de signatures et ils précisent que la plainte au pénal sera déposée cette semaine. Voilà, donc nouveau procès qui va arriver. Et on rappelle que cette porcherie a déjà perdu les deux premiers. Hein. Le premier correctionnel, et voilà. Mais ça ne les empêche pas de continuer. Alors, il y a des super, super articles toujours hein, sur ce sujet-là, sur ce plan. Moi, j'avais aussi trouvé une vidéo, alors je ne sais plus si c'était par l'asso AEPI ou celle Protection du Pays de l'Iroise qui est sur YouTube et qui revient un peu sur. Toutes les irrégularités qu'il y a autour de cette porcherie, parce qu'en fait, ça. Donc là, on rappelle, hein, c'est une extension pour recevoir encore plus de porcs, une extension qui a donc été fabriquée, construite avant d'avoir les autorisations, en fait. Hein, c'est un peu le principe. En France, on fait comme ça. Mais dans la vidéo, c'est marrant, c'est que ça remonte au tout début de la porcherie, où déjà, au départ, tu vois que. Donc c'est le maire actuel hein, qui était à l'initiative de cette porcherie. C'est son fils qui a repris maintenant. À l'époque, on lui avait reproché que le cours d'eau passait trop près de ces trucs à lisier. Et il a détourné le cours d'eau lui-même. Ça commence déjà, on détourne un cours d'eau comme ça en France, pas de problème. Après, je sais pas, il crée des routes lui-même sans autorisation. Enfin, non, mais c'est pas mal. Hein. Le dossier, il est lourd, quoi. Et c'est dingue de voir que ça puisse exister, quoi.
Bah, C'est pas surprenant. De toute façon, le mec qui a cette porcherie, il est dans tous les instituts, dans toutes les institutions qui pilotent, de toute façon, les autorisations. Donc, à partir du moment où tu es là, qu'il y a connivence, ce qui est impressionnant, c'est que un citoyen lambda ferait la moitié de ça, tu serais jugé bien comme il faut, et la loi te serait rappelée dignement, on va dire. Et il y a des gens, ils font partie des intouchables. Quoi.
Quand la FNSEA est là, tout va.
C'est ça.
Et donc si vous, donc voilà, donc il y a les articles sur Splend qui sont très bien. On peut juste vous remettre le lien du site, c'est splend.org avec deux N, Splend. Et il y a trois podcasts à réécouter, hein, sur le site Piquet. C'est un qui avait été fait en 2019 qui s'appelle hashtag balance ta porcherie. À la suite de ça, il y a eu la première émission du pain et des parpaings qui parle aussi de la porcherie de Landunvez, et on en parle aussi dans la première partie de Vivre et penser comme des porcs qui a été réalisé mi-octobre au Café de l'Ancre. Voilà, donc il y a trois beaux podcasts à aller écouter si vous êtes plus écoute que lecture. Bon, on est bien pour ce sujet,
je pense, ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette revue de presse? Est-ce que quelqu'un rebondit ou est-ce que je me lance?
Moi, j'avais toujours la petite affaire. On parle d'écologie, tu vois, donc autant parler de notre ministre. Agnès Pannier-Runacher.
Ah oui, Agnès. Elle est encore là, du coup, elle n'a pas encore démissionné.
Elle n'a pas démissionné, non. Donc là, moi, je vous renvoie sur le site d'Attaque, hein, ils en parlent bien aussi, tu vois. Et bien sûr, alors, on va continuer, hein, sur Blast, qu'on fait deux... Ils ont fait deux vidéos sur le sujet et c'est très intéressant. Donc, on mettra les liens à la fin de l'émission.
Donc, Agnès qui est soupçonnée de. Comment on appelle ça de...
Alors, en fait, elle n'est pas soupçonnée de conflit d'intérêt parce que, en vrai, quand la loi les autorise à ne pas dénoncer.
Il ne faut pas confondre déclaration du patrimoine, voilà, et soupçon de conflit d'intérêt. Si, justement, elle est en plein soupçon de conflit d'intérêt.
Alors, elle est en soupçon de conflit d'intérêt parce qu'elle a signé les papelards là, pour ses gamins,
ouais,
qui sont issus... ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que le père d'Agnès Pannier-Runacher, là, monsieur Runacher, c'était un des dirigeants d'une boîte qui s'appelle... je ne l'ai plus... Perenco, voilà. Et c'est une boîte que personne ne connaît, mais c'est le numéro 2 des hydrocarbures en France, ouais, après Total. Et ils se sont spécialisés dans le rachat des vieux puits, en fait. Alors, en gros, tu as des grosses boîtes comme Total, Engie, tout ça. Eux, ils viennent, ils exploitent des puits. Et quand les rendements commencent un peu à baisser, il y a des boîtes, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des charognards un peu, quoi. Eux, ils s'installent, ils réexploitent les puits en injectant plein de merde dedans pour les vider jusqu'à la moelle, et puis rien à branler de l'écologie, rien à foutre. Hein.
Pourquoi et donc, les hydrocarbures et l'écologie, je vois pas le problème.
Non, mais en fait, déjà, ce que fait Total, déjà, c'est pas terrible, mais en fait, Perenco, c'est une spécialité que personne ne connaît. Ouais, c'est vraiment aller exploiter jusqu'à la dernière goutte possible d'hydrocarbures. À n'importe quel prix,
ouais,
en fait.
Donc, t'injectes des produits chimiques de merde qui vont aller décoller tout ce qui reste dans les puits, quoi.
T'injectes un peu tout ce qui traîne pour que le pétrole ressorte, quoi.
Et après, ils retraitent tout ça, ils balancent les détritus et ils gardent, voilà, les petites gouttes de pétrole qu'ils ont chopées.
Il faut savoir, c'est souvent des puits en plus qui sont situés en Afrique. Enfin, tu vois, ils sont spécialisés aussi dans l'Afrique. Et donc, Perenco, ouais, c'est le numéro 2 du pétrole. Et lui, il était dans les dirigeants de ce truc-là. Et là, c'est une boîte, personne ne la connaît, hein, mais c'est pas surprenant parce qu'en fait. Elle est spécialisée aussi dans les paradis fiscaux. Parce qu'en gros, tous leurs actifs, ils sont situés dans le Delaware, dans des trucs bien comme il faut. Et ils font pas trop de pub, hein, sur ce qu'ils font, puisque comme ils font des trucs bien dégueulasses, personne n'est au courant de ce qu'ils font. Et donc, c'est son père qui a piloté cette boîte pendant des années. Et là, le truc qu'on lui reproche, en gros, à Agnès Pannier-Runacher, hein, qui, on lui rappelle, est notre ministre de l'écologie. Ouais. Donc, c'est celle qui est censée faire le plan de Macron pour se séparer. En 2035, on est censé avoir plus de moteurs thermiques en Europe, donc on est censé avoir plus de pétrole.
Ouais.
Voilà, donc elle est censée engager cette transition, tu vois, de dire on va arrêter le pétrole, tout en sachant que son père
il en vit, quoi.
Il en vit, et elle-même, elle en a vécu. Hein.
Et c'est là que ça va plus loin, c'est son père, il en vit, mais c'est là où justement ça devient tordu. Alors, on rappelle que quand vous êtes élu ou quoi que ce soit, dans la déclaration de votre patrimoine, vous êtes censé déclarer que votre patrimoine à vous, est celui de votre conjoint ou conjointe. Pas les enfants.
Et c'est là que ça commence à merder, parce qu'en fait, donc Disclose qui a sorti l'article, là, ils sont tombés sur une déclaration En fait, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher, qui ont 5, 12 et 13 ans, je crois, c'est ça, ou 14, le plus grand, et un cousin dont j'ai pas l'âge en tête, ils sont millionnaires, ces gens-là.
Bah oui, parce qu'en fait, voilà. Le grand-père, avec un montage tordu, leur lèguerait tout, quoi. C'est une façon de...
Alors, en fait, il leur a laissé des fonds de... Alors, en fait, c'est des placements financiers assez obscurs, c'est bien dégueulasse, tu vois, c'est du truc comme on aime. J'ai pas la liste en détail, pour ça, je vous encourage à aller sur le site de Blast, où ils expliquent très bien les actifs financiers qu'il y a là-dedans. Mmh. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont acheté des parts d'une boîte, mais genre un euro symbolique.
Ouais, un euro, ouais.
Et comme en plus ils sont mineurs, c'est la mère, hein, qui est obligée de signer la déclaration. Donc c'est Agnès Pannier-Runacher, le ministre, qui a signé.
Mmh. Pour qu'il puisse toucher, voilà, ces trucs, quoi, après.
Donc c'est un placement dans lequel il y a 1,2 million d'euros d'actifs. Mmh. Placés dans des paradis fiscaux, en plus.
Voilà.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ultra optimisé. Ces gens-là, ils optimisent tout. Il n'y a pas une thune qui ira dans les poches de l'État. Hein. Tout est vachement bien optimisé. Et donc là, ce qu'on lui reproche un peu, en gros, c'est que finalement, en tant que ministre de l'écologie, avoir des actifs dans le pétrole, bon, bah, ça, de toute façon, ça, personne ne pouvait ignorer au gouvernement que son père était un des leaders de Perenco.
C'est possible.
Ça m'étonnerait. Et donc là, ce qu'on lui reproche un peu, c'est que finalement, y a un conflit d'intérêts avec la boîte de son père qui est sur le pétrole, et il y a aussi une non-déclaration de patrimoine, parce que là, elle se cache en disant « c'est mes enfants qui ont le patrimoine, c'est pas moi ». Sauf qu'en fait, comme ses enfants sont mineurs, la la tutrice légale, on va dire, pour l'instant, du fonds de pension, tant qu'ils sont pas majeurs, c'est elle.
Ouais, c'est quand même elle.
Donc l'argent, c'est elle qui va arbitrer où est-ce qu'il va, comment il est arbitré, Donc en fait, en tant que ministre, elle arbitre de la thune qui est en plus sur des paradis fiscaux. Mmh. C'est juste magique.
Donc ça, c'est vis-à-vis du patrimoine, même si c'est un peu flou cette histoire de déclaration de patrimoine, mais en tout cas, où elle est aussi attaquée, c'est sur le fait qu'elle aurait dû déclarer un potentiel conflit d'intérêts. Il y a une case, ils ont même dit à quel endroit dans sa déclaration de patrimoine elle aurait dû le mettre. Il y a une case observation, je ne sais plus quoi, où tu es censé mettre à ce moment-là, attention, mon père il bosse quand même dans le pétrole, mes enfants ils vont toucher de la thune par le pétrole, je suis ministre de la transition écologique, il y a peut-être un petit conflit d'intérêts possible, quoi.
Voilà. Elle se défend, elle indique que c'est de la diffamation, pas vrai. Il y a quand même l'autorité, là, la HATVP, donc c'est la Haute Autorité sur la Transparence de la Vie Publique, je pense que c'est ça, hein, qui va quand même se mettre un peu sur l'affaire et voir s'il y a vraiment un délit d'initié, je ne sais pas trop comment ça va être. Et pour l'instant, il y a des appels à la démission aussi de cette ministre, mais le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, il a dit qu'il ne verrait pas pourquoi. Mmh. Bon, c'est pas grave, ça va se rajouter à la longue liste des 14 mises en examen du gouvernement qui n'ont toujours pas démissionné, alors que le grand patron, il avait dit que si jamais un ministre était mis en examen, il devait démissionner.
Ouais. Et Darmanin est toujours là.
Voilà, et donc ça fait partie de la grande liste. Et là où je trouve qu'il y a une analyse intéressante quand même, sur le site Attaque, c'est bien, ils font une synthèse intéressante, c'est que quand même, en ce moment, on n'arrête pas de le dire, il y a une défiance des politiques. Tout le monde il y a une profusion d'infos sur les réseaux partout. Le peuple a une défiance des politiques. Et les gens qui sont censés piloter des actions de conversion écologique et tout ça, ils se lèvent les mains avec du pétrole tous les matins.
Bel exemple.
Voilà, ça rejoint les méga-bassines, ça rejoint la porcherie où les gens ils font les travaux, puis c'est régularisé, on s'en fout. Moi, je vais suivre un peu cette histoire parce que ça m'intéresse de savoir de quelle façon... ça va être nettoyé par le gouvernement, parce que j'imagine qu'ils vont bien trouver un argument pour dire que c'est bien. Parce que, bon, Agnès Pannier-Runacher, elle n'est pas à sa première sortie, si tu veux. C'est pas la première fois qu'elle dit de la merde. C'était une de ses plus belles sorties, c'était quand même Le Monde Merveilleux de l'Entreprise. Hein. Il était magique, celui-là, je crois qu'il sert d'introduction dans tellement de vidéos maintenant. Donc voilà. Et en plus, Agnès Pannier-Runacher, c'est aussi une financière. Ça fait des années qu'elle est dans le monde de la finance, ça fait des années qu'elle est dans le monde de l'actionnariat, ça fait des années qu'elle sait comment ça marche, tout ça. C'est pas elle découvre pas ce monde, quoi.
Mais ça va être la pro du greenwashing, du coup.
Ouais, bientôt, elle va nous dire qu'on fera des puits de pétrole avec des éoliennes, comme ça.
Mais non, mais elle va faire la transition écologique avec les moteurs électriques et elle ira chercher du lithium à Tréguennec, quoi.
Oui, Ce sera pour le bien de la France.
Greenwashing.
Donc voilà, donc intéressez-vous à ce sujet, parce que c'est pas le premier qu'on voit en ce moment.
Commencez donc par cet article de Disclose qui a révélé l'affaire, il est tout à fait assez complet. Il est tellement complet que je suis étonné qu'elle arrive à dire que c'est de la diffamation, parce qu'il y a quand même des sources dans tous les sens. Faut y aller quand même pour...
Ouais, mais en gros, elle a dit qu'on la diffame parce qu'elle attaque plus ou moins la position du conflit d'intérêts, tu vois, du fait qu'elle n'ait pas déclaré des trucs, machin. Mais si, il y a un conflit d'intérêts à partir du moment où ton père, il est PDG d'une boîte de pétrole.
Et tes enfants, ils vont profiter de l'argent de ce truc-là, alors à moins qu'elle ait renié ses enfants.
Moi, je ne pense pas encore. Non, puis dites-vous que c'est des gens, tu vois, qu'en plus, notre gouvernement passe ton temps à dire qu'il faut bosser pour réussir, machin, que tous les autres, c'est des feignants, des trucs. Là, on est dans l'exemple aussi des gens. Le mec, il a 5 ans, il est millionnaire. Ils n'ont pas du tout des avantages. On n'est pas dans le même monde.
Mais qu'est-ce que c'est que cette jalousie mal placée ?
C'est pas de la jalousie. je veux de la justice sociale.
De toute façon, Pedro, depuis qu'il s'est fait traiter, il l'a pris aussi pour lui, mais on l'a pris pour nous. D'éco-terroriste, il est vénère.
Oui, oui, moi, je suis très vénère du coup d'éco-terroriste. Ça m'a foutu les glandes. J'aimerais bien lui rappeler ce que c'est un terroriste, Darmanin.
Et un éco-terroriste aussi.
Et je les encourage à se renseigner sur ce qui s'est passé en Irlande du Nord à une époque, ou en Italie, où il y avait vraiment du terrorisme contre les politiques. Et sa voiture, je ne pense pas qu'elle ait encore explosé, tu vois. Que sa famille se soit fait kidnapper avec...
Il n'a même pas été tagué comme la voiture de Jadot a été. Quoi.
Voilà. Donc, non, mais tu vois, c'est passé crème. Mais c'est la montée du... On en est sur des débats d'idées où tu as des hommes politiques qui balancent des bombes pour détourner le débat de fond.
Il n'y a pas que les hommes politiques. Ça se fait par les médias.
Ouais, mais t'as pas de... Je veux dire, il te balance ça, c'est comme l'autre conne là, de l'ensemble, celle qui était à l'enseignement supérieur avant, là, le premier mandat de Macron, qui avait islamo-gauchiste. C'est rentré dans le langage courant, quoi.
Tu parles de Blanquer ?
Non, c'était celle de... Vidal, ouais, je crois que c'était Vidal. Ça, ouais. Elle avait lancé une commission d'enquête comme quoi... pour vérifier que les intégrés islamiques n'avaient pas vérolé les plus grandes instances l'éducation supérieure, donc c'était les facs.
Ah oui, d'accord.
Elle s'est pris un ratal, parce que la commission d'enquête n'a rien donné, mais elle a quand même sorti à la radio les islamo-gauchistes. Et c'est un truc qui est rentré dans le langage courant. Donc éco-terroriste va rentrer dans le langage courant. Ça va être une manière de dénigrer une lutte, tout en s'opposant à des arguments de fond, parce que finalement, comme ça, on n'a pas besoin de justifier nos actions, parce que regardez en face, c'est des terroristes quand même. Donc c'est un mot fort, éco-terroriste, enfin je veux dire, c'est...
Ah bah oui, pour se faire recaler,
C'est...
De toute façon, c'est bon, on vit un monde où des présentateurs télé peuvent insulter des députés comme ils veulent, quoi, donc c'est...
Donc moi j'ai un peu digressé, désolé, dans mon raisonnement.
Ouais, ben là c'est ce qui risque de nous arriver.
Voilà.
Ouais, mais moi ça me va plutôt bien, parce que je voulais évoquer justement, puisqu'on est... sur l'intégrisme en milieu universitaire. Je suis tombé sur l'affiche d'une, un peu par hasard, par lien internet, sur l'affiche d'une conférence qui a lieu demain à l'UBO. C'est annoncé à l'UBO, là, sur l'affiche.
C'est assez à Brest, du coup.
Ouais, à Brest. Donc, c'est à 20 rue du Ken, à Brest. Et c'est en salle B001. Donc, s'il y a des gens qui veulent y aller, je les y encourage.
Quand vous rentrez à la fac, c'est droite. j'ai découvert cette salle jeudi dernier.
Et donc, c'est très étonnant comme conférence. Le titre, c'est « Dieu, la science, l'épreuve ». Et il y a des questions. Dieu existe-t-il ? Que disent les scientifiques de la création ? Enfin bref, donc c'est demain. Le 15 novembre. Du coup, j'ai essayé de voir à quoi ça correspondait, cette conférence. Donc, elle est animée par Olivier Bonassi, donc qui est un des co-auteurs d'un livre qui porte le même titre que la conférence, « Dieu, la science, l'épreuve ». Et du coup, c'est un pseudo ouvrage de vulgarisation scientifique. Mais ça a vraiment rien à voir avec de la vulgarisation des sciences. C'est
la vulgarisation de la religion.
Oui, c'est juste ce type-là, c'est juste un évangéliste. Il avait,
qui c'est Bonassi, c'est un type qui a lancé, il se présente comme entrepreneur, etc. Donc il a, fondé 8 ou 9 boîtes dont on a du mal à retrouver ce que ça peut être. Donc ça n'a pas dû donner grand-chose. Il y en a une qui est une boîte d'éducation, enfin de, d'édition de livres sur je ne sais plus quelle chose en lien avec le catholicisme. Et il a fondé donc un mouvement qui est le mouvement des Vierges Pèlerines. Donc c'est un adorateur de Marie, hein, donc il baladait comme ça dans toute la France des vierges dans des petites remorques pour faire des séances de prière dans les villages. Il a publié précédemment à ce livre-là en 2019 un livre donc encore sur la Vierge qui s'appelle Marie et la France, un lien extraordinaire à redécouvrir. Donc ça c'est sur le rapport entre les apparitions de Marie en France qui aurait une affection particulière pour la France parce qu'elle apparaîtrait beaucoup ici. Et donc qu'est-ce qu'il déclare? Que selon lui, Marie est la figure salvatrice d'une civilisation en crise, d'une France attaquée tout à la fois par les idéologies athées dominantes, le fanatisme LGBT et l'islam conquérant. Donc ça donne un peu un aperçu de quel type de catholicisme il s'agit, quoi. Il a été un fondateur d'une espèce de plateforme de presse catholique qui s'appelle Aletheia, donc qui a 10 ans maintenant, et dont le but est l'évangélisation par les médias. Donc ça, c'est le monsieur qui va venir à l'UBO. Et là, il y a de quoi s'interroger sur...
Ça a été autorisé, ça?
Nécessairement, en tout cas, il y a une affiche, je ne sais pas, il faudrait se renseigner. Et c'est tout à fait particulier. Le fond du livre, c'est de redonner sa place à la spiritualité dans la science, en termes de finalité divine. Apparemment, il s'intéresse particulièrement à la question du Big Bang, hein, comme...
Vrai, pas vrai.
Non, mais comme moment de la création.
Le prout de Dieu.
C'est ce que j'allais dire, le prout de Dieu.
Voilà, ce serait, c'est un peu de cet ordre-là, si j'ai bien compris. Alors, il convoque des scientifiques, des... Il y en a un qui est évoqué sur cette question du Big Bang, c'est le maître hein, qui s'est toujours prononcé contre toute forme d'interprétation théologique de ce qu'il avait fait, mais ça s'est passé sous silence. Et l'autre grand axe, hein, c'est d'attaquer le matérialisme scientifique, hein, qui est une opinion comme une autre. Hein. Pour eux, il y aurait éventuellement des interprétations spiritualistes, des interprétations matérialistes, et il n'y a pas lieu de discréditer une opinion plus que l'autre. Bon, le matérialisme scientifique, c'est la base de la science. Hein. Ça ne se discute pas. La science ne travaille pas sur ou à partir des interprétations religieuses des uns et des autres. C'est ce qui fonde la science, quoi. Donc c'est pas discutable. On ne discute pas sur ce principe-là, quoi. Mais ce qu'on peut retrouver, par contre, quand on essaye de voir comment est sorti ce bouquin-là et d'où ça vient, c'est une publication qui est sortie donc, il y a un peu plus d'un an maintenant, je crois que c'est en octobre, qui est concomitante, hein, pour une part, à une autre sortie de livre, hein, puisqu'ils se suivent à un mois de distance, qui est celle de Un destin français. Donc c'est quelque chose qui est orchestré dans le même mouvement éditorial. Hein. Enfin, ces gens-là vous diront qu'ils n'ont rien à faire et pour ensemble. Hein. Et pourtant, si on s'intéresse un tout petit peu à la manière dont ça a été lancé, donc il y a plusieurs événements qui sont intéressants. Hein. Il y a eu donc un grand débat qui a été annoncé pour présenter le livre à Paris. C'était en décembre, me semble-t-il. Où il y avait une espèce de grande présentation avec des gens tout à fait sérieux, donc Bonassi, Son co-auteur qui est Michel-Yves Bolloré. Il y avait dans la salle aussi les frères Bogdanov, hein, qui sont réputés pour être des prosélytes catholiques. Hein. Ils avaient publié un bouquin qui s'appelait Le visage de Dieu, qui a été décrié par toute la communauté scientifique.
Leur doctorat est décrié par la communauté scientifique.
Leur doctorat, qui date de 1999 et 2003, je crois, ont donné lieu à des publications du CNRS, dont les avis étaient plutôt tranchés, puisqu'ils disaient que c'était sans intérêt, voire que ça discréditait la science. Et il y avait un autre personnage qui s'appelle Yves Dupont, donc qui intervenait en qualité de conseiller scientifique. Alors ce monsieur est un personnage historique du Front National. Il a été élu sur les terres de Dreux, donc terre du Front National historique dans les années 80. Et il était un des fondateurs, avec Bruno Maigret, du MNR. Donc voilà à peu près dans quelle mouvance se situe cet ouvrage. Donc le co-auteur dont on peut parler aussi, hein, qui ne sera pas à cette conférence, donc c'est Michel-Yves Bolloré, qui est donc le grand frère de Vincent, et qui est tout aussi intégriste et catholique que
son frère.
Que son petit frère. Il est membre avéré de l'Opus Dei, donc qui est une organisation catholique espagnole connue pour son soutien à Franco, à Pinochet, pour avoir organisé des filières d'extraction de personnages ou nazis, ou ayant participé, ou du moins laissé faire le génocide au Rwanda. Donc on est dans cette sphère-là.
Une bien belle conférence à l'UBO, dis donc.
Ouais. Ouais.
Il va falloir qu'on aille peut-être interroger le proviseur.
On va peut-être en parler à l'agenda.
C'est absolument consternant qu'une université
accepte ce genre de truc.
Accepte de se prêter à ce genre de choses.
Ouais.
Moi, je voulais rebondir par rapport aux invités prestigieux qu'on a à Brest en ce moment, parce qu'on a déjà eu François Hollande qui est venu ce week-end.
Il est venu manger des crêpes.
Voilà, on a cette magnifique conférence qui est organisée. Tu dis, c'est ce soir, non, demain ?
C'est demain à 20h30.
Ouais, et ça tombe bien parce que demain aussi à 20h au studio. Il y a le film de Fabien Lemoine qui s'appelle Suspendu, des soignants entre deux mondes. Fabien Lemoine, c'est un gars de Réinfo Covid. Et voilà, il y a son film qui est présenté au studio, notamment avec le collectif Santé 29. Donc voilà.
D'accord.
J'aimerais bien que les camarades qui étaient dans le collectif Santé 29 nous expliquent un peu ce qu'ils sont allés foutre à inviter ce connard de base, donc qui se dit praticien de santé, en fait il est naturopathe, hein. Faut savoir que naturopathie, t'as pas de diplôme, en fait ça n'existe pas, et il est aussi listé dans sur la fameuse carte là dont nous avait parlé Bastien dans la midinale, la carte qui est sur le site L'Extracteur, qui s'appelle Complotisme et extrême droite, les liaisons dangereuses. Donc voilà, il y a son nom qui apparaît à ce petit monsieur dans la partie santé alternative. Très proche de Louis Fouché, on s'en doute de Réinfo Covid. Donc voilà. Donc on passe ce genre de film au cinéma, les studios.
Finalement, François Hollande qui venait dédicacer son livre au Leclerc de Kergaradec, ouais, et puis venir manger une crêpe, c'était un peu moins...
Oui, c'était surtout la crêpe qui était importante. Ouais.
Il a mangé des pâtés aussi.
Il en a pris deux fois.
Non, mais bon. À côté, c'est ridicule. Quoi. C'est,
on s'en fout.
Non, mais en tout cas, cette conjonction de deux événements, c'est tout à fait inquiétant sur la poursuite des mouvements d'extrême droite dans le coin. Hein,
oui, surtout ce qui est fou, c'est l'infiltration de certains milieux scientifiques sous réserve de... Enfin, ils se vendent comme en plus des sachants, tu vois, donc ils ont un pouvoir de persuasion impressionnant, quoi.
Oui, parce que c'est de la grosse fumisterie, hein. Ces deux types ne sont absolument pas des scientifiques, hein. Alors Bonassi, je crois que c'est un...
J'ai son curriculum vitae, si tu veux.
Ouais, il est de Polytechnique,
Polytechnique. Après, il a obtenu une licence de théologie à l'Institut catholique de Paris. Ah, et oui. Après, il a fait HEC. Donc, c'est un commercial. Donc, il fait du management, je pense, catholique, tu vois.
Donc, Bolloré, hein, le grand frère, c'est la même chose, quoi. Enfin, son historique est assez simple. Hein. Il a repris la papeterie avec le petit frère. Ils ont fait ça pendant 10 ans. Après, il a fondé une entreprise français sort, je crois, dans la mécanique industrielle. Et par contre, là, ça devient assez intéressant dans les années 2000. Il rachète, je crois, les fonderies du Creusot, enfin, un ensemble d'entreprises comme ça autour des fonderies du Creusot. Et c'est une magnifique opération financière, cette reprise-là. Ça va durer 3 ans, puisque je crois que c'est entre 2003 et 2006. Il va revendre cette entreprise-là 170 millions, c'est-à-dire 15 fois à peu près à sa mise de départ. Donc c'est plutôt une belle culbute. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui lui a permis en 3 ans de dégager autant de millions, c'est que Areva était intéressée par la reprise éventuelle. Elle aurait pu l'acheter très peu cher, hein, de cette entreprise, parce qu'il y avait le programme donc de réacteurs nucléaires EPR qui se mettait en place, et il y avait besoin de fabriquer donc les coupoles des cuves, et c'est ces entreprises-là qui ont du coup fabriqué les coupoles qui ont dû être démontées.
Oui, parce que c'était mal fait, mal conçu.
Avec le succès qu'on connaît.
Et donc, alors c'est pas que Bolloré qui est responsable de ça, hein, mais en tout cas, pour une part, le processus industriel qui a conduit à donc faire ces coupoles-là, qui sont techniquement dures à faire, hein, parce que elles sont grandes. Je crois qu'on part d'un lingot qui doit faire 150 tonnes pour arriver à le travailler, etc. Il y a un enjeu technique, hein, c'est-à-dire qu'il faut que la pièce soit correctement chauffée pour que le carbone se mélange bien à la matière pendant que c'est forgé. Et c'est ce savoir-faire-là qui n'a pas été correctement mis en place, parce qu'il y a... La surveillance des matériaux n'a pas été bien faite et qui a abouti au fait qu'elles ont dû être démontées, quoi. Mais en tout cas, c'est aussi pendant que ce monsieur était directeur de l'entreprise qu'il y a eu ces opérations industrielles qui ont été faites et dont il est responsable.
Bon, et puis au passage, comme tu parlais de l'EPR, je crois que celui qui est en Finlande, il était presque connecté au réseau, il l'avait monté en puissance maximum et tout, et il a tenu un mois et demi, on est obligé de l'arrêter parce qu'ils ont découvert des fissures encore sur un circuit de refroidissement, je sais plus quoi, enfin ça continue, les emmerdes avec les EPR.
Ouais, mais c'est l'avenir.
C'est l'avenir. Hein, Macron, tu vas nous en faire plein. Bon... est-ce qu'on fait la pause maintenant ? Moi, j'aurais bien aimé parler un peu de l'Iran, parce que la semaine dernière, j'avais été totalement très évasif et un peu brouillon. Ce serait juste pour finir, on peut le faire rapidement dans cette revue de presse ou dans le début de s'informer autrement, comme vous voulez.
Comme tu le sens, toi.
Ouais. Bon, on le fera au début de s'informer autrement, parce que pour s'informer sur l'Iran, il faut le faire autrement, effectivement, à ce moment-là. Même si là, c'est des articles que j'ai trouvés dans des journaux, genre Le Monde ou autre chose.
Putain, tu lis Le Monde,
oh. Ah ouais, tous les matins, je m'impose ça. Bah, je commence par là, après je finis. Je finis sur l'espace des médias libres, accessible par Basta. Très bien, je vous le conseille. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, donc on va terminer là cette petite revue de presse. On va faire une pause musicale. Alors, il me semble que Pedro a repris la playlist en main... Donc, nous ne sommes pas responsables de ce que vous allez entendre dans les minutes qui suivent.
Ça s'appelle... Comment ?
Alors, le premier titre, alors, aucun lien avec ce qu'on vient de raconter, hein, c'est de Bolivar, ça s'appelle « Je danse ». Voilà, vous découvrirez. Et le deuxième titre, histoire de rester dans l'ambiance, c'est de « Piquons mon amour » avec « La grève du slip
». C'est la grève.
Et allez, et ben on vous dit à tout à l'heure.
On a J'arrive dans la boîte de nuit et je me demande ce que je fous ici. Je sais pas pourquoi je les ai suivis. J'ose pas me barrer, c'est pas poli. Si l'appétit vient en mangeant, l'envie de vivre vient en vivant. Alors je prends un remontant et c'est alors que je danse. Parce que j'ai pris des substances, je m'enjaille. Whisky pur à la paille, je danse. Parce que j'ai pris des substances, je kiffe. Grâce à mon palliatif, une jolie fille danse devant moi. Ce serait plaisant de lui plaire. J'expérimente de nouveaux pas. Je me pète la gueule, ça glisse par terre. Soupçon de honte, je m'évade en effectuant quelques roulades. Un type me stoppe, me signale que les roulades sont illégales. Mes tentatives sociales se finissent mal, c'est bouleversant. Alors je prends un remontant et c'est alors que je danse. Parce que j'ai pris des substances, je m'enjaille. Whisky pur à l'appareil, je danse. Parce que j'ai pris des substances, oh j'aime.
Second tour des élections, la révolution est en marche, c'est la grève à la maison. Pourtant je te jure mon amour que je suis pas républicaine, plutôt bercée par l'anarchie. Monsieur Fébern, c'est pas la peine, j'ai pas d'excuses, je suis désolée. Oui j'ai voté pour un banquier, c'est pas la gloire en vérité, mais bleu marine me faisait flipper. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est l'alarme. Allons, allons, c'est la grève à la maison. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme. Allons, allons, faites la grève à la maison.
Et quand je repense à ton père en 2002 qui vote Chirac, j'imagine bien ta mère lui sucrer sa dose de cric-crac.
Rien qu'une fente pour ma traîtrise, je redeviens femme insoumise. Bah plus jamais tu m'y reprendras, je préfère voter blanc deux fois. J'en ai assez de me faire enfler, devant, derrière et sur le côté. Y'en a marre du Front National qui fourre son nez dans mon trou de balle. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est l'alarme. Allons, allons, faites la grève à la maison. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme. Allons, allons, faites la grève à la maison.
Eh ouais! Et si je lançais une pétition, plus de sexe à la maison, c'est tout le quartier qui va trinquer.
Franchement, c'est vraiment bien trouvé.
Ça va peut-être nous faire lever tous nos gros culs, nos canapés. Lancer la lutte à coup de lutte, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je vous le dis, messieurs, mesdames, le moyen de pisser sur la flamme, de faire la nique à la nation, se situe sous nos pantalons.
Plus de sexe, plus de plaisir, c'est l'alarme. Allons, allons, c'est la grève à la maison.
Plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme. Allons, allons, faites la grève à la maison.
Et si jamais un jour mon cum se met à parler comme un keuf, ça sera la grève pour moi aussi, plus de sexe c'est fini.
Pas besoin de faire dans le social pour tous ceux du grand capital. Fini les privilèges jolis pour les fachos et les nazis, les militants, les syndicats. C'est pas nos droits mais c'est un droit.
La finance est un combat.
C'est politique.
C'est politique.
Oh c'est politique.
Oh c'est politique.
Pas de politique ici, s'il vous plaît.
C'est politique, ça vient d'en bas.
Plus de sexe, plus de plaisir, c'est l'alarme. Allons, allons, c'est la grève à la maison. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme. Allons, allons, faites la grève à la maison.